بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. Dans ce hadith rapporté par Abu Daoud, le prophète والسلام, nous informe que la première chose sur laquelle nous serons interrogés Yom al-Qiyamah sera la salat. Donc la première œuvre sur laquelle nous serons interrogés sera la salat. Si la personne a bien accompli sa salat, elle aura réussi. C'est-à-dire, تحصل على المطلوب. Elle obtiendra ce qu'elle souhaitait. Donc, narjou, on espère qu'elle obtiendra le Jannah, le paradis, bi-idhnillah ta'ala. Par contre, wa'in fasadat, le cas contraire, si cette salat-là a mal été accomplie, ou si la personne n'a pas accompli du tout la salat, ou qu'elle l'a accomplie d'une manière qui n'est pas correcte, dans ce cas-là, sa salat ne sera pas acceptée. Qal, faqad khaba wa khasir. Dans ce cas-là, la personne khaba, c'est-à-dire qu'elle n'obtiendra pas la récompense. Wa khasir bi wuqu' al-'uquba. Cette personne-là se fera châtier. Riyadan billah. Et dans une autre version, il est parvenu fa'in qubila minhu qubila sa'iru 'amalihi. Si la salat de la personne est acceptée, toutes ses autres œuvres seront acceptées. Wa in ruddat rudda 'alayhi sa'iru 'amalihi. Par contre, si la salat de la personne n'est pas acceptée, toutes ces autres œuvres seront rejetées également. Riyadan billah. Donc ce hadith-là nous indique qu'il faut faire très très attention. Car si notre salat n'est pas accepté, toutes nos œuvres ne sont pas acceptées. Riyadan billah. Et sachez que notre salat n'est valable qu'en accomplissant al-wudu, c'est-à-dire les ablutions. Comme l'a dit le prophète, alayhi salat wa salam, « La yaqbalu Allahu salat ahadikum idha ahdath » حَتَّى يَتَوَضَّ. Dans ce hadith rapporté par le Bukhari Muslim, le prophète nous informe qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas notre salat jusqu'à qu'on accomplisse al-wudu. Donc il faut accomplir al-wudu. Al-wudu, ce sont les ablutions. Donc il faut accomplir al-wudu pour que notre salat soit accepté. Donc voilà le lien qu'il y a entre al-wudu et la salat. Donc on dit que al-wudu est un charte, c'est une condition pour la salat. Et il y a une différence entre un charte, une condition, et un rukn. Un rukn, c'est un pilier. Alors, quelle est la différence entre un charte, c'est-à-dire une condition, et un rukn, c'est-à-dire un pilier? La différence est que le rukn, le pilier, fait partie intégrante de l'ibadah, de cette adoration-là. On va donner un exemple. Prenons l'exemple de la salat. Le sujoud, la prosternation, fait partie de la salat. Donc c'est un rukn. Celui qui ne se prosterne pas, qui ne fait pas sujoud alors qu'il en est capable, sa salat n'est pas valable. Donc c'est un rukn. Pourquoi? Parce que le sujoud a lieu pendant la salat. Il fait partie de cette ibadah qui est la salat. Par contre ici, el-wudu et la salat sont deux ibadahs différentes. Ce sont deux choses différentes. El-wudu ne fait pas partie intégrante de la salat. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un shart et non pas un rukn. Donc c'est une condition. Celui qui a compris cela aura compris l'énorme importance de bien accomplir le wudu. Car si on accomplit mal le wudu, les ablutions, notre salat risque d'être rejeté, risque de ne pas être accepté. Riyadan billah. Et lorsque cela touche à ce bas monde, à cette dunya, les gens en général font très attention. Par exemple, si un patron dit à ses employés, demain, lorsque vous viendrez, je vais vérifier si vous avez fait telle ou telle chose. Par exemple, il va leur dire de faire telle ou telle tâche. Celui qui a fait cela sera payé et sera embauché, et celui qui ne l'a pas fait ne sera pas payé et risque de ne pas être embauché. Que vont faire les employés? C'est sûr qu'ils vont se concentrer sur cette chose-là. C'est certain. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie de ne pas se faire payer. D'accord? Donc, ils ont peur dans leur patron. Ils ont peur de ne pas être payé. Donc que dire ici? Ce n'est pas une paye qui est en jeu, c'est la récompense de la salat qui est en jeu. Et cela est bien plus énorme que cette paye. Et comme on l'a dit, el-wudu est une condition Et lorsque cela concerne les choses de la dunya, comme on l'a dit, les gens se bougent beaucoup. Par exemple, s'il y a de l'argent en jeu, par exemple, admettons qu'on a droit à une certaine aide, on a le droit à une aide d'argent. Mais pour obtenir cette aide d'argent, on doit rapporter un dossier, on doit amener un dossier et on doit amener des documents. Celui qui ne ramène pas tel ou tel document, son dossier est rejeté et il n'obtiendra pas cette aide-là, cet argent-là. Bien, wallah, dans ce cas-là, tu vois les gens se bouger. Wallah, tu vois l'ajib. Les gens se bougent, ils sont prêts à faire des kilomètres pour obtenir ce document. Ils sont prêts à le ramener en double, en triple, à faire des photocopies. Et même les gens qui ne savent même pas lire se bougent dans ce cas-là. Ils vont se renseigner, ils vont aller demander à des gens comment obtenir ce document-là. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin de ce document-là. Sinon, son aide sera refusée. D'accord ? Donc, il n'a pas envie que son dossier soit rejeté. Donc, que dire ici ? On a dit ici que c'était une condition. Eh bien, ici, le wudu est une condition pour notre salat. Donc, ici, ce n'est pas une aide également sociale. C'est notre salat qui est en jeu. Donc, il faut bien comprendre l'importance de bien accomplir le wudu. Donc, on va se baser sur le document PDF que j'ai publié sur la chaîne Telegram. On va suivre l'ordre. Alors, tout premièrement, j'ai cité ce hadith rapporté d'après Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, où le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Man tawadda fa ahsana al-wudu, kharajat khatayahu min jasadihi, hatta takhruja min tahta adfarihi. » Dans ce hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit que quiconque accomplit le wudu, les ablutions avec application, ses péchés sortiront de son corps jusqu'à même par-dessous ses ongles. Ce hadith est rapporté par Muslim. Donc il faut bien garder cela en tête. Lorsqu'on accomplit le wudu, Allah Azza wa Jal est en train de nous pardonner nos péchés. Il est en train de nous pardonner nos fautes. Nos péchés sortent de notre corps. Également, il a rapporté que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Man tawadda hakadha » Celui qui accomplit son wudu de ses ablutions, c'est-à-dire de cette manière. « Qala hakadha » Donc ici, remarquez bien, il a dit de cette manière. C'est-à-dire qu'on doit accomplir le wudu comme le prophète, alayhi salatu wassalam, les a accomplis. Pas à notre façon, pas chacun à sa façon. Ses péchés passés lui seront pardonnés. Subhanallah. Donc celui qui accomplit bien son wudu, ses ablutions, ses péchés antérieurs, ses péchés passés, lui seront pardonnés. Ce hadith est rapporté par Muslim. Ici, on va se poser cette question-là. Est-ce que ce sont les petits péchés qui sont pardonnés, ce qu'on appelle as-sara'ir, ou les grands péchés, al-kaba'ir? Donc, est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne nos grands péchés, al-kaba'ir, ou seulement les petits péchés, as-sara'ir? La réponse est ce qu'a cité Sheikh Ibn Baz. Il a cité que ces preuves-là étaient limitées par d'autres preuves. Il a cité entre autres ce verset où Allah Azza wa Jal dit « In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum ». Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit que si on s'écarte des kaba'ir, des grands péchés, eh bien Allah Azza wa Jal nous pardonne nos péchés. Donc ici, il est conditionné de s'écarter des kaba'ir, des grands péchés. Et également, Cheikh Ibn Baz a cité ce hadith où le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « As-salawat al-khams » les cinq salats quotidiennes. « Wal-jumu'a ilal-jumu'a » c'est-à-dire une personne qui accomplit la salat du vendredi jusqu'à la semaine suivante. Il accomplit également la salat du vendredi, cette période-là. « Wa ramadan ilal ramadan » et la même chose pour ramadan, une personne qui accomplit ramadan cette année, puis l'année d'après, elle accomplit le ramadan. Toute cette période-là, « qala kaffaratun lima baynahun » eh bien, Allah Azza wa Jal pardonne les péchés qui se sont produits pendant cette période-là. « Idha shtunib al-kaba'ir » mais ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, a bien précisé. Il a dit « Idha shtunib al-kaba'ir » à condition que la personne s'écarte des grands péchés. Donc cela indique que ce sont les petits péchés qui sont pardonnés, « as-sara'ir ». Quant aux grands péchés, le kaba'ir, il faut faire tawba. Il faut se repentir. Il faut toujours garder en tête al-fadl, ce mérite énorme lorsqu'on accomplit le wudu. Donc il ne faut pas que ce soit une routine. Lorsqu'on accomplit le wudu, il faut garder en tête que nos péchés sont en train de sortir avec l'eau. Comme l'a cité le prophète, alayhi salatu wassalam, dans ce hadith, « قال, إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه » donc lorsqu'on se lave le visage, « خرج من وجهه » كل خطيئة نظر إلي بعيني مع الماء. Toutes les fautes qu'on a commises avec nos yeux sortent avec l'eau. Subhanallah. Donc par exemple, si on a regardé quelque chose qu'il ne fallait pas regarder, Allah Azza wa Jal nous pardonne cette chose-là. قال فإذا غسل يدي خرج من يدي كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء. La même chose avec les mains. Si on a commis des péchés avec les mains, eh bien Allah Azza wa Jal, lorsqu'on se lave les mains pendant l'eau d'eau, Allah nous pardonne ce péché-là. Nos fautes sortent avec l'eau. Et la même chose avec les pieds. Donc si on est parti par exemple dans un endroit où il ne fallait pas aller, un endroit où il y avait de la cigarette, de la musique ou autre, Allah Azza wa Jal nous pardonne ce péché-là. Et donc à la fin, le mu'min, lorsqu'il accomplit l'eau d'eau, « yakhruj naqiyan min adh-dhunub » La personne sort purifiée des péchés. Donc il faut bien garder tout cela en tête lorsqu'on accomplit l'eau d'eau. Ce n'est pas une simple routine. Puis on a cité la quantité d'eau suffisante pour accomplir l'eau d'eau, les ablutions. On a cité ce hadith où Anas, radiallahu anhu, قال « كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد » Donc le prophète, alayhi salatu wasalam, accomplissait le wudu avec un moud. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Et un moud équivaut au volume d'eau contenu dans le creux des deux mains jointes d'un homme de corpulence normale. Donc ça fait à peu près un peu plus d'un demi-litre, 0,6 litre. Donc il ne faut pas utiliser trop d'eau lorsqu'on accomplit le wudu. Un peu plus d'un demi-litre suffit pour accomplir le wudu normalement. Mais nous, généralement, on utilise beaucoup plus d'eau que cela. Donc, il faut faire très attention à ne pas gaspiller de l'eau. Par exemple, lorsqu'on ouvre le robinet, faire attention à ne pas le laisser ouvert trop longtemps si nos mains ne sont pas dessous, par exemple. Donc, il faut veiller à ne pas gaspiller de l'eau. Que dire lorsqu'on accomplit le ghusl ? Dans ce hadith, il est indiqué que le prophète, alayhi salatu wasalam, accomplissait le ghusl, c'est-à-dire les grandes ablutions, avec un sa. Un sar, c'est 4 fois la quantité qu'on a citée. C'est 4 mouds. Donc, ça fait à peu près 2 litres et demi. De 2 litres et demi à 3 litres. Donc, normalement, cela suffit. Mais nous, on utilise beaucoup plus d'eau que cela. Donc, par exemple, rien que le temps d'attendre que l'eau chaude arrive, on a utilisé je ne sais pas combien de litres. Donc, il faut garder en tête qu'il faut faire très attention à ne pas gaspiller de l'eau. Par exemple, on peut mettre un seau pour récupérer l'eau le temps que l'eau chaude arrive. Il y a certains pays qui font très attention à l'eau. L'eau est très précieuse dans ces pays. Par exemple, en Mauritanie, ils font très attention. Ils font l'eau d'eau dans des petites tasses. Puis on a cité Farah et de l'eau d'eau, les obligations des ablutions. Donc cela indique que si la personne délaisse une de ses obligations, eh bien son eau d'eau n'est pas valable. Ses ablutions ne sont pas valables et elle doit les recommencer. On va les citer brièvement et on va voir par la suite les preuves en détail. Donc le premier point, la première obligation lorsqu'on accomplit le wudu est le fait de se laver une fois le visage. Et le fait de se laver la bouche et le nez en fait partie. Donc il faut se laver au moins une fois le visage. Une fois est le minimum obligatoire. Et le fait de se laver la bouche et le nez en fait partie. Le deuxième point qu'on a cité est le fait de se laver les mains et les avant-bras jusqu'aux coudes compris. Donc se laver les mains et les avant-bras et les coudes également. Le coude est compris dans le lavage. On va citer les preuves par la suite, Inch'Allah. Le troisième point est le masah. Il faut obligatoirement se passer les mains mouillées sur toute sa tête et les oreilles comprises. Les oreilles également. La quatrième obligation est le fait de se laver les pieds jusqu'au kaab, c'est-à-dire jusqu'aux os des chevilles. Le cinquième point est le fait de respecter et tartib. Tartib, c'est le fait de respecter l'ordre de lavage des membres. Donc, il faut respecter l'ordre de lavage des membres. Il faut laver les membres selon l'ordre qui va être cité. Le sixième point est ce qu'on appelle en arabe al-mu'ala. Al-mu'ala, c'est le fait de se laver en continu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laver un membre alors que le membre précédent a séché. Si on se lave, il ne faut pas faire de coupure, en résumé. Par exemple, il ne faut pas se laver les mains, partir 5 minutes, faire quelque chose ou 10 minutes et revenir. Car dans ce cas-là, si les mains sont sèches, eh bien, il faut recommencer le wudu à partir de zéro. Donc, il faut se laver de façon à ce que lorsqu'on lave le membre, eh bien le précédent est toujours humide. S'il est sec, eh bien il faut recommencer à partir de zéro. Il faut recommencer le wudu depuis le début. Et l'imam Nawawi a cité dans son livre Al-Majmou' que le fait de faire une petite pause, c'est-à-dire par exemple je me lave les mains, je vais faire quelque chose, je reviens rapidement, mes mains sont toujours humides et je continue à faire le wudu, n'annule pas le wudu. L'odo est valable. Il y a l'ijmer. Tous les savants s'accordent à dire cela. Et ici, on va citer une faïda de Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, qui a dit « Yustathna min dhalika ma idha fatat al-mualatu li amrin yata'allaku bitaharati » Cheikh Ibn Uthaymin dit qu'il y a une exception à ce cas-là. Il a dit que si on tarde à se laver les membres, mais que c'est une cause qui est liée à Tahara, dans ce cas-là, cela n'invalide pas le wudu. Par exemple, on va donner un exemple. Une personne s'est lavé les mains. D'accord ? Elle s'est lavé les mains trois fois. Puis elle passe au visage. Et là, elle voit qu'elle a une petite tache. Elle voit une tache de peinture, par exemple, et elle frotte pour que l'eau puisse passer dessous. Et le temps qu'elle fasse cela, ses mains ont séché. Eh bien, dans ce cas-là, cela n'est pas grave. Elle peut continuer le wudu. Pourquoi ? Parce que cela, elle a été préoccupée par quelque chose qui est lié à l'eau, à tahara, à la purification. Ou par exemple, si la personne n'a plus d'eau et qu'elle doit aller puiser de l'eau dans un puits, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin. Donc elle va puiser de l'eau dans le puits. L'échec, n'y a aucun doute, cela va prendre du temps et que le membre d'avant aura séché. Mais pourtant, son eau est valable. Elle peut continuer son eau. Donc si cette cause-là est liée à tahara, eh bien, cela n'est pas grave. Elle peut continuer le wudu. Et ici, on va citer une petite faïda qu'a cité l'imam Nawawi concernant le nombre de fois. Alors, l'imam Nawawi a dit « Ajma'a al-ulama ala an al-wujub marra wahida ». L'imam Nawawi a dit qu'il y avait ijma', c'est-à-dire que tous les savants sont d'accord pour dire que le minimum obligatoire est de se laver une fois. Donc, il faut se laver une fois. Le faire deux fois est encore mieux. Le faire trois fois est encore mieux. On a plus de mérite et de récompense. Mais le minimum obligatoire est une fois. Puis, on a cité, deuxièmement, les actes qui sont sunna. Donc ici, cela signifie que ce sont des actes qui sont recommandés pendant el-wudu. C'est ce qu'on appelle sunan el-wudu. C'est-à-dire que si la personne fait ces choses-là, effectue ces actes, elle a encore plus de mérite et de récompense. Mais si elle ne les fait pas, eh bien, son wudu est valable. Ses ablutions, c'est valable. Donc attention, ici j'attire bien l'attention sur quelque chose d'important. Lorsqu'on dit que cela est recommandé, c'est-à-dire, il est recommandé de le faire et non pas de le délaisser. Donc nous, lorsqu'on accomplit l'wudu, c'est comme une cagnotte. On essaie d'avoir le maximum de hasanat, le maximum de récompense. Donc on fait tout ce qui est parvenu d'après le prophète alayhi salatu wasalam. Et les sahaba, lorsque le prophète alayhi salatu wasalam faisait quelque chose, il ne s'opposait pas à cette question-là. Est-ce que cela est obligatoire ou recommandé ou... Non, il le faisait. Donc nous, on doit le faire également. Et on étudie ces choses-là. Est-ce que telle chose est obligatoire ou recommandée ? Seulement pour savoir comment se comporter. Par exemple, si on a oublié un membre, si on a oublié de se laver un membre, pour savoir est-ce que cela invalide le wudu ou pas. Donc on étudie ces choses-là pour connaître la réponse à ces choses-là. Est-ce qu'il faut recommencer le wudu à partir de zéro ou pas? Ou est-ce que ce membre-là était seulement mustahab? D'accord? Donc on étudie ces choses-là pour ce genre de questions-là, pour ce genre de cas-là. Donc le premier cas est le fait de la première chose qui est recommandée est le fait de se laver les mains avant le wudu. Donc, il est recommandé de se laver les mains trois fois avant d'effectuer le wudu, les ablutions. Donc voilà. Donc si une personne, un jour, effectue le wudu, elle se souvient qu'elle a oublié de se laver les mains trois fois. Bien, dans ce cas-là, elle doit savoir qu'elle n'a pas recommencé le wudu et que son wudu est valable et sa salat est valable, bismillah, inshallah. Le deuxième point est le fait de dire bismillah. C'est ce qu'on appelle el bismillah. Certains savants ont dit que si on se souvient qu'il faut dire bismillah, dans ce cas-là, cela est obligatoire. Mais si la personne a oublié, elle a oublié de dire bismillah, qu'elle a fini le wudu, son wudu est quand même valable. Et ici, on va citer le kalam de Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayh, concernant el bismillah. Alors, il a dit que le bismillah signifiait le fait de dire bismillah. Qala, ay yaqul bismillah. ويكون عند ابتدائه. Et cela se passe au début d'un wudu, au début des ablutions. لقوله صلى الله عليه وسلم لوضو لمن لم يذكر اسم الله عليه. Donc le prophète a dit dans ce hadith لوضو, c'est-à-dire point d'eau pour celui qui ne cite pas le nom d'Allah, c'est-à-dire pour celui qui ne dit pas Bismillah. Donc il a cité que cela indique apparemment que cela est obligatoire. قال فدل هذا على أنها واجبة ولكن المذهب أنها واجبة فقط وليست شرطا. Mais il a dit que ce qui ressort est que cela est wajib, c'est-à-dire obligatoire et non pas un shart, et non pas une condition, c'est-à-dire une condition d'acceptation des ablutions. Et ce qui indique cela, c'est-à-dire que ce n'est pas une condition pour que le wudu soit valable, est que ce hadith-là, eh bien les savants ont dit qu'il était faible. Certains savants ont cité que ce hadith-là était daif, avait une faiblesse. Et c'est pour cela que l'imam Ahmed a dit « La yathbut fi hadha al-bab shay » L'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, a dit qu'il n'y avait aucun hadith authentique à ce sujet-là. C'est-à-dire sur le fait que le fait de ne pas dire « Bismillah » invalidait le wudu. Donc il n'y a rien d'authentique à ce sujet-là. Donc ce hadith est faible, il est daif. Il ne peut pas servir de preuve formelle indiquant que celui qui ne dit pas « Bismillah », son wudu est invalide. Donc ils ont dit que cela était mustahab. Le fait de dire bismillah est mustahab, recommandé seulement. Et Cheikh Ibn Uthaymeen a dit également لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الَّذِينَ وَصَفُوا وُضُوءَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ تَسْمِيَةً. Il a dit qu'il y a beaucoup de rapporteurs de sahaba qui ont rapporté la description d'un wudu et n'ont pas cité la tasmiya. Or, si la tasmiya était un shart, eh bien, ils l'auraient cité. Il faut faire attention car certains savants ont dit que cela était obligatoire. Donc nous, on dit Bismillah. Mais il faut juste savoir que si un jour, par exemple, on a oublié de dire Bismillah, eh bien d'après la parole de ces savants, notre wudu, Inch'Allah, est valable. Taïb. Le troisième point qu'on a cité est qu'il est recommandé d'utiliser le siwak. On va citer les preuves par la suite. Le quatrième point est qu'il est recommandé de faire passer de l'eau entre les doigts, aussi bien les doigts des mains que les doigts des pieds. Donc il est recommandé de bien faire couler l'eau entre les doigts des mains et les orteils, les doigts des pieds. Le cinquième point qui est recommandé est le fait de commencer par la droite. Et la preuve en est ce hadith où le prophète, alayhi salatu wa sallam, a dit « Iza labistum » lorsque vous vous habillez, « Wa iza tawadda'tum » et lorsque vous accomplissez le wudu, les ablutions, « Fabda'u bi ayaminikum » commencez par la droite. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud et Ahmed, et Cheikh Al-Albani l'a authentifié. Donc, il nous a enjoint de commencer par la droite lorsqu'on accomplit le wudu. قال الإمام ابن المنذر رحمة الله عليه أجمع على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه. Ibn al-Munzir a cité qu'il y avait ijma des savants. C'est-à-dire que tous les savants sont d'accord pour dire que celui qui commence par la gauche avant la droite n'a pas à recommencer le wudu, n'a pas à refaire les ablutions. Donc tous les savants sont d'accord sur cela. Et c'est ce qu'a cité également l'imam Ibn Qudama rahmatullah alayhi et également l'imam An-Nawawi. Donc le meilleur est de commencer par la droite. Mais si un jour par exemple on se trompe et qu'on a commencé par la gauche, eh bien, il faut savoir que notre wudu est valable. Car cela est seulement recommandé, non pas obligatoire. Mais nous, lorsqu'on accomplit le wudu, on commence par la droite, bien évidemment. Puis on passe à sifat al-wudu, la description des ablutions. Alors, le premier point qu'on a cité est niya, l'intention. On a cité le fameux hadith qui est connu de tous, où le prophète عليه الصلاة والسلام a dit إنما الأعمال بالنيات. Le prophète a dit les œuvres ne valent que selon les intentions. Donc il faut placer notre niya. Et notre niya a lieu dans le cœur. Il n'est pas permis de l'exprimer à haute voix. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Et Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi a cité un point très important. Il a cité que lorsqu'on accomplit un acte d'adoration, une ibada, il faut toujours bien garder en tête deux choses. Il a dit premièrement, l'awwal amara Allah ta'ala bi hadhihi al-ibada. Il faut toujours garder en tête que c'est Allah Azzawajal qui nous a ordonné d'accomplir cette ibada, cet acte d'adoration. Donc c'est Allah qui nous a ordonné cela et qui nous a légiféré cela. Et la deuxième, قال اتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. Il a dit qu'il fallait prendre en exemple le prophète عليه الصلاة والسلام. لتتحقق المتابعة. Donc pour que notre acte soit accepté, il faut le faire d'une façon conforme à la façon de faire du prophète alayhi salat wa salam. C'est ce qu'on appelle le mutaba'a, le suivi du prophète alayhi salat wa salam. Donc pour que nos œuvres soient acceptées, elles doivent respecter deux conditions. La première est l'ikhlas. Il faut vouer cette œuvre-là pour Allah azza wa jal. Et la deuxième est le mutaba'a. C'est-à-dire qu'il faut que cette œuvre soit conforme à la sunna du prophète alayhi salat wa salam. Il faut le faire de la manière selon laquelle l'a fait le prophète alayhi salatu wasalam. Donc il faut toujours bien garder en tête ces choses-là dans toutes les ibadas, dans tous les actes d'adoration qu'on fait. Puis le deuxième point qu'on a cité est qu'il était recommandé d'utiliser le siwak à chaque fois qu'on accomplit le wudu. Et la preuve, on est sur hadith le prophète alayhi salatu wasalam a dit لَوْلَا نَشُكَّ عَلَى أُمَّتِي لَمَرْتُمْ بِسِوَكْ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ. Le prophète a dit que si ce n'était la crainte de causer une certaine gêne à ma umma, à ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak à chaque ablution, à chaque fois qu'ils accomplissent le wudu. Ce hadith est rapporté par Ahmed al-Nasa'i et authentifié par Sheikh al-Albani rahmatullah alayhi. Donc si cela était obligatoire, cela serait pénible pour nous, cela serait difficile, car cela impliquerait déjà que tous les jours on devrait avoir un siwak avec nous. Car si cela est une obligation, à chaque fois qu'on accomplit l'odo, on devrait avoir un siwak à notre disposition. Donc le prophète n'a pas ordonné cette chose-là, car sinon cela serait lourd pour nous. Et également, parmi les mérites du siwak, comme l'a cité le prophète, alayhi salatu wasalam, السواك مطهرة للفم. Donc le siwak est un moyen de se purifier la bouche. مرضات للرب. Et c'est quelque chose qu'Allah Azza wa Jal agrée. Donc il est recommandé d'utiliser le siwak à chaque fois qu'on accomplit le wudu. Et dans une autre version rapportée par le Bukhari Muslim, عند كل صلاة. À chaque fois qu'on accomplit la salat, à chaque salat. Donc troisièmement, on a dit dire bismillah. Donc après, par la suite, on dit bismillah. On a déjà cité les preuves à ce sujet-là. Puis, quatrièmement, il est recommandé de se laver les mains trois fois avant d'accomplir le wudu. Et la preuve en est ce hadith où Aws, radiallahu anhu, a dit « Ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tawaddaa. » Donc Aws a vu le prophète accomplir le wudu. « Qala, fastawkafa thalatha. » Stawkafa, c'est-à-dire qu'il s'est lavé les mains trois fois. Donc les savants ont dit qu'il était recommandé de se laver les mains trois fois avant d'accomplir le wudu. Par contre, au réveil, cela est obligatoire. Car le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit « إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَا حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. Dans ce hadith, le prophète a dit que lorsque l'un de vous se réveille, qu'il se lave les mains trois fois avant de les introduire dans l'eau du récipient, car il ne sait pas où elles ont pu se poser pendant la nuit. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc il a dit que lorsqu'une personne se réveille, elle doit se laver les mains trois fois avant de les plonger dans l'eau du récipient. Pourquoi ? Car cette personne-là ne sait pas où se sont posées ses mains pendant la nuit. Il se peut que ses mains se soient posées sur des impuretés. Donc avant de les mettre dans le récipient, la personne doit se laver les mains trois fois. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ici, on va se poser cette question-là. Est-ce que cela concerne tous les sommeils, c'est-à-dire aussi bien le sommeil de la nuit que le sommeil de la journée, ou seulement le sommeil de la nuit? Donc, par exemple, si une personne fait une sieste, est-ce qu'après cette réveillée, elle doit se laver ou pas? Donc, certains savants ont dit qu'il fallait faire cela après chaque sommeil, عقب كل نوم. Donc que aussi bien après le sommeil de la nuit que le sommeil de la journée. Donc si une personne fait la sieste et qu'elle se réveille, eh bien elle se lave les mains avant de les plonger dans l'ina. Et d'autres ont dit non. D'autres ont dit que dans le hadith, le prophète alayhi salatu wasalam a dit فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي إِنَ بَاتَتْ يَدُ. Or, batat, le verbe bata en arabe, indique une action qui a lieu pendant la nuit. Bata indique une action qui a lieu pendant la nuit. Donc, ils ont dit que ce hadith était spécifique au sommeil de la nuit. Et d'autres ont dit que إِنَّمَا خَصَّ نَوْمَ اللَّيْلِ بِذِكْرِ لِلْغَلَبَ. D'autres ont dit que non. Ils ont dit qu'en fait, le prophète alayhi salatu wasalam a cité le sommeil de la nuit seulement de façon générale, parce que le plus souvent, c'est la nuit qu'on dort. Sinon, en fait, il concerne tous les sommeils. Donc, aussi bien le sommeil de la nuit que le sommeil de la journée, car la illa, la cause, est toujours valable. Même pendant la sieste, lorsqu'on accomplit une sieste, on ne sait pas où se pose nos mains. Il se peut que notre main se pose sur une impureté. Donc, voilà ce qu'ont dit les savants. Deuxièmement, on a cité le fait de se rincer la bouche et d'inspirer, puis d'expirer de l'eau par le nez. En arabe, c'est ce qu'on appelle el-madmada. Alors, el-madmada, c'est le fait de mettre de l'eau dans la bouche, se rincer, puis recracher l'eau. Puis, el-istinshaq. El-istinshaq, c'est le fait d'inspirer de l'eau par les narines. Et el-istinthar, c'est le fait d'expirer cette eau de son nez. Donc voilà, il faut se rincer la bouche, puis recracher l'eau. Et inspirer de l'eau par les narines et expirer, faire sortir cette eau de son nez. Et ici, on va se poser cette question-là. Est-il obligatoire de faire tourner, de faire bouger l'eau qu'on a dans la bouche, de partout dans la bouche ou pas? Est-ce que cela est obligatoire ou pas? Cheikh Ibn Uthaymeen a expliqué que si on mettait un petit peu d'eau dans la bouche, eh bien dans ce cas-là, il est obligatoire de faire bouger l'eau dans la bouche, de rincer la bouche en la faisant tourner, en la faisant bouger. Par contre, قال فإن كان كثيرا يملى الفم فقد حصل المقصود. Par contre, si on se remplit la bouche d'eau et que on met de l'eau dans la bouche et que l'eau prenne toute la place dans la bouche, dans ce cas-là, حصل المقصود, on n'a pas besoin de faire cela. Donc en résumé, s'il y a un peu d'eau, il est obligatoire de faire bouger l'eau dans la bouche. Mais si on met beaucoup d'eau, eh bien, dans ce cas-là, cela n'est pas nécessaire. Puis on a cité qu'il fallait faire el-madmada et el-istinshaq en même temps. C'est-à-dire qu'il faut prendre la moitié de la poignée d'eau pour la bouche et l'autre moitié pour le nez, en même temps. Et il faut faire pénétrer l'eau dans les narines avec la main droite et la faire sortir avec la main gauche. Donc voilà la sunna. On fait pénétrer l'eau dans les narines avec la main droite et on la fait sortir avec la main gauche. Et la preuve, on est ce hadith de Abdullah ibn Zayd, radiallahu anhu, qui a dit « ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّ وَاحِدَ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ » Abdullah ibn Zayd a vu le prophète accomplir l'eau d'eau et il a vu qu'il s'était rincé la bouche et le nez avec la même poignée d'eau à trois reprises. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Et ici, on va également se poser une autre question. Est-il permis de se laver la bouche toute seule, puis de se laver le nez tout seul? Ou est-il obligatoire de se laver en même temps la bouche et le nez avec la même poignée d'eau? Ici, on va citer le kalam de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi. Il a dit al-jam' bayna al-madmada. Al-jam' c'est le fait de regrouper, de faire en même temps. Al-madmada wa al-istinshaq, c'est-à-dire de se laver la bouche et les narines bima wahid, avec la même poignée d'eau, afdal min an yafsil. Donc c'est meilleur que le fait de séparer. Kulli wahid bima. Donc c'est meilleur que le fait de se laver la bouche toute seule puis le nez tout seul. Voilà ce que dit Cheikh al-Islam rahmatullah alayhi. Il a cité qu'en fait, les hadiths à ce sujet-là étaient asah wa akthar. Il y avait de plus de hadiths qui citaient cela et ils étaient plus authentiques. Min ahadith al-fasl. Que les hadiths qui indiquent al-fasl, c'est-à-dire la séparation, le fait de se laver la bouche tout seul, puis le nez tout seul. Et c'est ce qu'a cité également Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Alors, Cheikh Ibn Uthaymeen a cité qu'il y avait trois façons d'accomplir al-madmada ou al-istinshaq. Donc, il a cité une manière qui est qawiyya, c'est-à-dire qui est la manière la plus authentique. Et c'est la manière qui prévaut. Et celle-ci est le fait de prendre une poignée d'eau, de faire, de se laver la bouche et le nez avec la même poignée d'eau. Donc on prend de l'eau dans la bouche et dans le nez et on expire l'eau. D'accord ? Une fois. On reprend de l'eau, on fait la même chose, de l'eau dans la bouche et par les narines, on expire l'eau. On reprend de l'eau, une troisième fois, et la même chose. Voilà la première manière, et c'est la manière la plus authentique et la meilleure. La deuxième manière est el fasl, c'est le fait de séparer, le fait de mettre de l'eau dans la bouche, se rincer la bouche, puis prendre de l'eau et se laver le nez. Donc il a dit que les fuqaha ont cité cette manière-là, mais que cette manière-là était da'ifa. C'est-à-dire que ce n'est pas la manière qui prévaut. Ce n'est pas la meilleure des façons d'accomplir le mandat ou l'istinchaq. Et une manière qui est la besbia, une manière qui est permise. Alors cette manière-là est le fait de prendre une poignée d'eau et avec une seule poignée d'eau, de faire trois fois la bouche et le nez en même temps. Donc je prends une poignée d'eau, je mets un peu d'eau dans la bouche et un peu dans le nez, j'inspire et j'expire. Et une deuxième fois, avec la même poignée d'eau, je ne reprends pas d'eau. Une deuxième fois, je rince la bouche et le nez. Et une troisième fois, la bouche et le nez. Mais comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymeen, lorsqu'on fait cela, on risque de manquer d'eau. C'est sûr que si on fait cela, on risque de manquer d'eau. L'eau risque de ne pas suffire. Donc dans ce cas-là, on va revenir à quoi ? On va revenir à la meilleure des manières, qui est le fait de reprendre de l'eau. Donc voilà ce qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymeen, et qui est ajouté par la suite, المشهور عند الفقهاء أنها كلها جائزة. Donc les fuqaha ont dit que ces trois manières-là étaient permises. Donc ces trois manières-là sont sunna. قال يعني كلها سنة. وعلى هذا ينبغي لنا أن نفعل هذا مرة وهذا مرة. Donc il a dit on peut faire une fois comme ça, une fois, une autre fois d'une autre manière et ainsi de suite. ولكن لا شك أن أثبتها وأصحها. Mais la meilleure et la plus authentique des manières de faire est le hadith, ce qui est parvenu dans le hadith de Abdullah ibn Zayd, comme l'a cité, car ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Mais les trois manières sont permises et la personne a le choix. Voilà ce qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Donc voilà, on s'arrête ici pour ne pas faire trop long. Et Inch'Allah, demain, on continue la deuxième partie de la description d'Al-Wudu. Wa ilawuna, walhamdulillahi rabbil alamin. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم